ce soir, industrie, État sauveur ou État stratège? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Emmanuel Macron est-il le fils spirituel d'Arnaud Montebourg ? Certes, on imagine mal que l'intrépide ancien ministre du redressement productif reconnaisse une telle paternité. Et pourtant, il ne renierait certainement pas la décision annoncée en grande pompe la semaine dernière par le gouvernement, la nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire. Les socialistes y avaient renoncé, le nouveau président est de gauche et de droite. On a fait, lui, un acte fort du début de son quinquennat, ce qui aura surpris tout le monde, à commencer par les syndicats. Alors faut-il y voir pour autant le retour de l'État protecteur, investisseur et planificateur de l'industrie? Ce serait oublier un peu vite la stratégie du « en même temps » du président qui l'a précisé. Cette nationalisation est temporaire et risque peu de devenir une règle. Alors à plusieurs centaines de kilomètres de là, à la souterraine, dans la Creuse, les salariés de GMS sont en attente de connaître leur sort. Reprise ou liquidation, la décision du tribunal commercial de Poitiers était attendue pour aujourd'hui. Elle pourrait être repoussée à fin août. 277 emplois sont en jeu. Peu de chances qu'une nationalisation vienne les sauver. La fermeture de l'usine serait pourtant une catastrophe pour ce territoire où elle demeure le deuxième employeur privé. Alors pourtant, les pouvoirs publics n'ont pas ménagé leur peine pour trouver une solution, même partielle. Toutes les conditions de l'unique repreneur ont été acceptées. Hausse des commandes, investissement sur le site et pendant un temps, il fut même question d'exemption de loyer. Alors pour GMS, comme pour Team dans le Nord, Whirlpool à Amiens ou Vivarte et tant d'autres, y a-t-il une stratégie à long terme au-delà de la mobilisation de crise? Industrie, État sauveur ou État stratège? Débat, ce sera notre débat de ce soir avec nos trois invités, à commencer par vous Thierry Veil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur général des mines, professeur à Mines Paris Tech et délégué à la Fabrique de l'Industrie. La Fabrique de l'Industrie, c'est le think tank pour les questions industrielles?
Oui, tout à fait. C'est un laboratoire d'idées créé il y a 5 ans par un certain nombre de fédérations industrielles et de syndicats et d'universitaires qui s'inquiétaient du fait que le déclin de l'industrie ne mobilisait pas beaucoup les foules et donc qui souhaitaient pouvoir réfléchir aux moyens de permettre le développement industriel et de sensibiliser le public à ces enjeux.
Alors à vos côtés, et puis peut-être pas exactement à vos côtés, avec vous pour discuter ce soir, Marie-Claire Caïto, vous êtes avec nous par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT. Vous êtes l'une des co-auteurs de l'ouvrage « La bourse ou l'industrie » qui est paru aux éditions L'Atelier en 2016. Et troisième invitée, Valérie Rabault. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée PS du Tarn-et-Garonne. Vous avez été élue mardi dernier rapporteuse spéciale aux participations de l'État. Vous nous éclairez un petit peu sur cette mission. Vous allez surveiller un petit peu si l'État défend bien ses intérêts dans les participations qu'il a dans certaines entreprises.
Et puis peut-être aussi avoir un peu d'ambition pour orienter des stratégies, qui est le thème de l'émission. Et être rapporteur spécial, ça veut dire qu'au moment du budget, au moment de la loi de finances, on écrit un état des lieux sur ce que fait l'État, sur ce que ça coûte, bien sûr, au budget de la France, et sur les résultats qu'on peut en attendre. Donc toutes ces questions-là seront de nouveau débattues en septembre. Et je pense que l'actualité sera assez riche, puisque le gouvernement a annoncé qu'il voulait créer 10 milliards, enfin en tout cas qu'il voulait envisager 10 milliards d'euros de nouvelles participations. On va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, mais ça sera bien sûr discuté en septembre.
Et puis vous êtes auteur notamment de « La France contre-attaque, ces entreprises qui inventent le millénaire » coécrit avec Karine Berger aux éditions Odile Jacob. C'était en 2013. Alors pour commencer peut-être avec GMS, dont on attendait aujourd'hui une décision entre reprise ou liquidation. Pour rappel, il n'y avait qu'un seul repreneur en lice, GMD, un repreneur de Saint-Étienne. Il avait conditionné son engagement quand même à un fort engagement des pouvoirs publics, une hausse de commandes de la part de Renault et PSA. L'État dû peut-être un petit peu tordre le bras à ces deux entreprises pour qu'elles acceptent d'augmenter leurs commandes. Donc un plan d'investissement quand même de 15 milliards d'euros. Et puis voilà, c'est une histoire aussi de dépollution des sols, etc. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est habituel qu'un repreneur mette autant de conditions, exige autant de la part des pouvoirs publics pour reprendre un site, Valérie Rabault?
Alors, lorsqu'un repreneur met des conditions à sa reprise, c'est assez courant. Là, c'est un dialogue avec l'État, mais ça peut se passer dans d'autres cas avec des partenaires privés. Vous avez bien entendu, dans un contrat de reprise, vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup de choses qui portent sur le passif de l'entreprise, qui portent sur les investissements, qui portent sur l'état du matériel que vous reprenez. Toutes ces conditions-là, il est normal qu'elles soient discutées. Moi, ce qui me chagrine le plus dans cette affaire, et dans les deux dont on parle aujourd'hui, sur les chantiers navals aussi, c'est un peu le flou. On a l'impression qu'on a des morceaux du pulse, mais qu'on n'a pas tout. En tout cas, que tout n'est pas rendu public. Alors peut-être qu'il y a de bonnes raisons, je n'en sais rien. Mais je trouve que cette situation de report, ça fait quand même la quatrième fois maintenant que la décision est reportée, signifie qu'il y a quand même des choses qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas, en tout cas des morceaux du pulse qu'on n'a pas, et je trouve ça un peu inquiétant.
Thierry Vell, votre avis sur l'engagement vous avez aussi l'impression qu'il y a peut-être une partie cachée dans ce dossier qui expliquerait ces reports répétitifs.
Je n'ai aucune information exclusive sur le cas de GMS.
On va se baser alors sur celle qu'on connaît.
Mais bon, c'est une négociation, tout n'est pas sur la table. Jusqu'au bout, le repreneur essaye d'avoir des garanties que ce soit viable et qu'il fasse une bonne affaire. Donc il essaye d'acheter le moins cher possible quelque chose qui a un maximum de potentiel de valorisation. Donc il essaye de dire, s'il y a des problèmes de dépollution des sols, c'est pas pour moi, c'est pour la collectivité locale. Si je peux avoir les loyers gratuits, c'est plus facile pour mon compte d'exploitation. Bon, ça c'est normal. On n'a pas tous les éléments du dossier, on les a encore moins dans une affaire peut-être un peu stratégique comme STX. Donc ça fait partie d'une négociation et c'est très difficile d'apprécier de l'extérieur sans avoir les données.
On a un petit peu l'impression que le repreneur potentiel essaie de profiter de la situation, de la menace effectivement d'un plan social que le gouvernement peut-être politiquement ne peut pas se permettre pour demander toujours un peu plus d'investissement. Et voilà, encore une fois, je reviens à cette question. Est-ce que c'est habituel ou est-ce que là, on a une situation où l'État s'engage davantage qu'il ne le devrait?
Disons, il n'y a qu'un repreneur potentiel. Donc l'État n'a pas essayé de monter les enchères entre deux ou trois personnes intéressées. Il n'a qu'une personne en face qui hésite sur son intérêt. Maintenant, que l'État, au niveau central, ou que les collectivités territoriales s'intéressent au dossier et facilitent les choses, à partir du moment où il y a des intérêts publics en jeu, comme on dit, des externalités, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas être appropriées par les actionnaires de l'entreprise, mais qui concernent tout le territoire, il est normal que les pouvoirs publics s'en chargent. C'est vrai que dans une région très peu industrielle comme la Creuse, la disparition d'une entreprise, même de 250 salariés, pèse très lourdement. En plus, c'est même pas dans le chef-lieu, c'est dans une commune qui n'a pas beaucoup d'industrie. Si le même sinistre industriel avait lieu en Île-de-France ou à Saint-Nazaire, on dirait, mais pas de problème, un bon ajusteur, un bon chaudronnier, un bon soudeur, dans ces régions-là, tout le monde va se les arracher, donc si telle entreprise particulière disparaît, ça ne concerne pas les pouvoirs publics. Là, il y a un aspect local important.
Marie-Claire Caïto, votre regard sur GMS, vous avez l'impression que les pouvoirs publics s'engagent suffisamment ou trop justement pour la reprise de ce site?
Non, si vous me le permettez, avant de répondre plus spécifiquement à la question, j'aimerais bien donner le contexte qui est, quand on pose la question, est-ce que l'État s'engage ou pas, quel est le contexte, c'est-à-dire quel est l'état de l'industrie en France déjà, et quel est le rôle de l'industrie dans l'économie, rapidement, parce qu'en France, on a un pays que se désindustrialise de manière inquiétante, hein, ça a été dit en introduction par M. Veil. On est quand même, il faut savoir, à 10% dans le PIB, alors que la moyenne de la zone euro, c'est 16%. Hein. On a un appareil industriel qui est vieillissant, qui souffre d'un manque d'investissement, qui fait qu'aujourd'hui, on importe 60% de nos besoins. Donc ça conduit à un déficit structurel de la balance commerciale. Or, on sait très bien que si on veut avoir une économie forte, on a besoin d'un socle industriel solide sur le territoire national. C'est-à-dire que l'industrie, c'est l'outil qui nous permet de produire des biens, des services, des richesses pour répondre aux besoins de la population. Donc on a vraiment ce besoin d'industrie et d'avoir cette vision industrielle sur le long terme, donc d'avoir, comme vous l'avez dit en introduction, un État stratège, parce que c'est bien son rôle. Si l'État veut arriver à résorber le chômage, qui est quand même la gangrène de notre société, il ne pourra pas faire l'impasse sur réindustrialiser le pays. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est, j'allais dire, à la croisée de plusieurs problématiques avec les différentes transitions en cours. On parle de transition écologique, énergétique, numérique. On a besoin d'avoir une transformation de notre appareil productif à l'aune de ses exigences et de ses possibilités. D'autant plus que ces transformations impliquent de mettre l'humain et le travail au centre et donc d'engager des efforts immenses, j'allais dire des efforts immenses, de formation initiale et continue et de recherche. Et donc effectivement, le rôle de l'État, c'est de nous donner cette vision pour le pays. Or, première chose que je constate, avant de revenir sur les dossiers particuliers, c'est que c'est quand même une première dans ce gouvernement. Depuis, je crois, si je ne me trompe pas, 1886, on n'a pas de ministre de l'Industrie.
Ah bah, il y a eu un ministre du redressement productif.
Pas dans ce gouvernement-là.
Non, je parle du précédent gouvernement.
Le gouvernement actuel, je vous dis, c'est une première. On n'a pas de ministre de l'Industrie. On a un secrétaire d'État au numérique, on a un ministre de l'Économie et des Finances, on n'a pas de ministre de l'Industrie. Alors, ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle, c'est non seulement les milliers d'emplois qui sont en jeu, comme à GMS ou comme éventuellement STIC, sans pouvoir venir sur ce dossier qui est quand même particulier, extrêmement intéressant, mais c'est la vassalisation de notre système productif. Donc oui, le gouvernement, son rôle, c'est de donner un coup d'arrêt, y compris en prenant des parts, voire tout le capital dans les entreprises si elles sont jugées stratégiques. Mais attention, j'allais dire, il ne s'agit pas, après avoir privatisé les profits, de socialiser les pertes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ne pas avoir eu d'anticipation justement sur les besoins et la politique industrielle et faire en sorte que l'État soit là simplement une fois qu'une entreprise a engrangé les bénéfices, parce que quand même les dividendes, ils ont été multipliés par 5 dans la valeur ajoutée depuis 30 ans. Ça veut dire que les dividendes, les actionnaires, ça, la France se porte, les entreprises en France, les grosses entreprises, hein, je fais la différence entre les entreprises CAC 40 et les PME ETI, elles se portent très bien. Donc il ne s'agit pas qu'une fois qu'elles ont empoché les dividendes et qu'elles délocalisent ailleurs, que les toits, ils soient appelés en pompier. Vous voyez, il y a vraiment un besoin d'anticipation, d'avoir une politique également qui regarde sous quelles conditions sont donnés des financements, parce qu'il y a quand même des mécanismes qui ont été mis en place, CICE, CIR, donc...
On va en discuter, Marie-Claire Caïto, pardon de vous couper, mais pour revenir un peu sur le fil rouge qui est le nôtre, à savoir pour l'instant l'actualité de GMS par rapport à ce que vous disiez à l'instant. Est-ce que vous avez l'impression, dans ce cas-là, que l'intervention des pouvoirs publics, donc région et État, relève pour vous d'une vision stratégique, même si elle arrive peut-être un peu tard, ou d'un sauvetage qui est peut-être mal placé, déjà trop tard, et qui va relever de la socialisation des pertes, comme vous disiez.
On a le sentiment, mais depuis donc ce nouveau gouvernement, mais c'était, j'allais dire, aussi le cas précédemment, hein, mais on a le sentiment qu'on a une politique sparadrap, quoi. Hein. C'est-à-dire que, voilà, quand il y a une entreprise qui est en difficulté, on essaye de boucher les trous pour effectivement qu'il n'y ait pas des hémorragies d'emploi, mais que ce n'est pas, mu par une véritable vision, une planification, parce que c'est pas un gros mot, une stratégie sur du long terme. Parce qu'en industrie, on a besoin de pouvoir prévoir 10, 15, 20, 30 ans à l'avance. Le temps industriel est beaucoup plus long que le temps politique, malheureusement. Et quand on prend l'exemple du groupe STX, parce que quand même, c'est une entreprise qui a un carnet de commandes qui est plein pendant 10 ans, quoi. Et Ficantieri, qui veut reprendre, qui propose de reprendre STX, est possédé à 76% par l'État italien. Donc c'est quand même des situations, vous voyez, qui sont un petit peu particulières avec le chantier de Saint-Nazaire, où c'est le seul endroit où on peut faire des navires de très grande taille parce que c'est une des plus grandes baies d'Europe. Donc il y a vraiment des enjeux très stratégiques, par exemple sur le groupe STX. Donc évidemment, il faut que l'État intervienne. Il ne faut pas qu'on puisse se laisser, j'allais dire, dépouiller. Parce que je vous rappelle que dans le cas, Ficantieri est le concurrent direct de STX en Europe.
On va revenir un instant sur la nationalisation de STX. Marie-Claire Caïto, vous parliez de politique sparadrap. Valérie Rabault, c'est aussi une impression que vous pouvez avoir sur certaines actions, typiquement GMS, mais peut-être aussi TIM, par exemple, entreprise dans le Nord, là, dont on vient de trouver un repreneur, mais c'est pareil, ça a été un petit peu in extremis, avec beaucoup de rebondissements.
Moi, je suis une grande fan du plan, qui n'existe pas, mais qui a le mérite de poser des objectifs. Et je pense que pour l'industrie, je rejoins vraiment sur ce qui vient d'être... Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'industrie demande du long terme, c'est-à-dire il faut qu'on prévoie sur 10, 15, 20 ans et qu'on mette un pilote ou un conducteur dans le train, vous dites comme vous voulez. Et là, j'ai bien l'impression que depuis que le plan n'existe plus, et puis même un peu avant, cette capacité-là à se projeter on ne se la donne pas. Le plan, c'est pas un objectif, c'est un outil. Mais un outil qui vise à dire, ben voilà, j'ai envie, il y a les chantiers navals, il y a l'énergie, il y a la transition énergétique. On se fixe des objectifs, on les atteindra peut-être pas, mais au moins, on a une feuille de route qui est tracée. Et quand on n'a pas ça, eh ben forcément, on y va au coup par coup. Ou, comme ça vient d'être dit, on fait de la politique du sparadrap. Mais c'est pas efficace, c'est peut-être efficace à court terme. Mais si c'était efficace, on n'aurait pas un poids de l'industrie dans notre PIB à 10% quand d'autres sont à 20% dans leur pays. Donc ça, je pense que tant qu'on ne se posera pas la question de dire quel est l'objectif qu'on veut atteindre, comment on l'atteint, quels sont les moyens qu'on y met, le plan, répondait, était un moyen de le faire. Le premier plan, il date de 1946, c'est un petit chef-d'œuvre où tout le monde s'est mis autour de la table, les représentants syndicaux, le monde politique, la société, ce qu'on appelle maintenant la société civile. Ils ont choisi 5 objectifs. Il y avait évidemment l'acier, il y avait évidemment l'agriculture, en tout cas 5, et on a concentré les moyens là-dessus, et c'est ce qui a permis la création des 30 Glorieuses. Depuis, on navigue un peu à vue. Et à chaque fois qu'on navigue à vue, eh ben on se plante. Il n'y a pas 36 solutions.
On dit aujourd'hui que des entreprises comme GMS ou comme Team souffrent d'un problème de sous-investissement, hein, de l'investissement qui n'a pas eu lieu durant plusieurs années. Est-ce que l'existence d'un plan aurait pu permettre de détecter à l'avance ce problème de sous-investissement et peut-être d'y remédier avant, Thierry Veil?
Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, je ne suis pas fétichiste des organisations ou des noms, c'est-à-dire on peut s'occuper d'industrie sans avoir un ministère de l'industrie nominalement. On peut réfléchir aux conditions qui permettent à l'industrie de se redéployer sans avoir forcément un commissariat au plan. On a France Stratégie et on a le Conseil économique, social et environnemental pour réfléchir justement aux conditions de développement à long terme des secteurs, pour réfléchir à la transition énergétique, pour réfléchir à la transition numérique. Je pense que le problème est plus tout à fait le même que juste après-guerre, où il y avait une reconstruction à faire dans des domaines précis, les chantiers navals, l'acier, l'énergie. Là, c'est un peu toute l'industrie et toute l'économie d'une manière générale pour laquelle il faut trouver des conditions favorables. Et ça, les outils actuels, ils suffisent. Je prends quelques exemples et j'abonde sur ce que disait Marie-Claire Caïto sur le fait que on ne peut pas avoir d'économie forte sans industrie forte et que l'industrie est nécessaire à la cohésion sociale et la cohésion territoriale. On l'a vu en Angleterre ou aux USA, qui sont les deux pays qui sont désindustrialisés au même rythme, voire encore plus vite que nous. On a quand même eu le Brexit, on a quand même eu Trump. Donc les régions anciennement industrielles sinistrées, auxquelles on n'a rien à proposer, ça coûte cher. Alors, sans commissariat au plan, on a une certaine idée, ne serait-ce que grâce au rapport de France Stratégie, de ce qu'il faudrait faire. Par exemple, taxer, on est un des seuls pays en France à taxer énormément le travail, à travers des charges sociales qui pèsent sur le travail, mais dans d'autres pays, le financement de l'assurance maladie ou de l'assurance ou des assurances familiales ne passe pas par une taxe sur le travail, mais sur la fiscalité d'ensemble, donc qui concerne aussi, par exemple, les retraités qui ont de bons revenus. Et certains pays, la Suède, par exemple, taxent très peu le travail et taxent beaucoup les nuisances environnementales. Donc, un des principes de l'économie, c'est de taxer ce dont on ne veut pas, et de détaxer ou d'inciter ce dont on veut. Donc de taxer le carbone et de taxer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, mais de ne pas taxer trop fortement le travail si on veut qu'il y ait plus d'offres de travail. On va un peu dans ce sens-là avec le CICE, mais ça reste limité puisque les salaires de l'industrie sont souvent au-delà des salaires concernés par le CICE. Et puis, Marie-Claude Caïto l'évoquait déjà, il y a tout ce qui est encourager l'investissement patient et risqué dans l'industrie plutôt que les investissements sans risque dans l'immobilier ou dans des placements qui rapportent à tout coup, et faciliter notamment la formation, vu qu'on sait que les transitions actuelles détruisent beaucoup d'emplois peu qualifiés et créent un besoin d'emplois très qualifiés. Donc on ne sait pas très bien à quel rythme les emplois peu qualifiés sont détruits ou les emplois très qualifiés sont créés. En revanche, on sait que notre appareil de formation n'est pas à la hauteur aujourd'hui des transitions nécessaires.
Alors quelque chose me dit que Marie-Claire Caïto ne sera peut-être pas forcément d'accord avec vous sur la question de la fiscalité du travail, mais je voulais juste avant faire réagir Valérie Rabault, donc toujours sur cette question de la manière dont le plan aurait pu peut-être anticiper certains problèmes.
Je ne suis pas non plus une fétichiste du plan, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Quand on met autant d'acteurs pour réfléchir, il n'y a rien qui se passe après. Parce que le plan était un organe de décision, pas juste d'étude, de décision. Et c'est ça dont on a absolument besoin. Sur les autres points que vous abordez, sur la fiscalité. Pour moi, la fiscalité, ça reste un moyen. Encore une fois, l'objectif tel qu'il doit être défini, il n'est pas clairement mis sur la table. Et je pense que plus que la fiscalité, on a besoin d'investissements. Dans l'industrie, il y a des investissements à très long terme. Moi, je n'oppose pas le privé et le public, mais je constate juste que quand les investissements à long terme ne sont pas faits, personne dans l'économie n'est capable de les faire. Parce que vous n'allez pas demander à un investisseur privé de s'engager sur 30, 40, 50 ans. Ce n'est pas vrai. En tout cas, pas à l'échelle dont on a besoin. Et donc, avoir une puissance publique, que ce soit la région, que ce soit l'État, qui soit capable de mettre cet argent sur la table, ça me paraît indispensable. Aujourd'hui, on a des discussions sur les trains. Alors là, on vient de voir l'épisode d'un dysfonctionnement. Les dysfonctionnements, ils viennent du fait qu'on n'entretient pas suffisamment nos infrastructures. Ça aussi, ça fait partie d'un plan stratégique et il faut qu'il soit porté par la puissance publique quand on est sur du long terme. Quand on est sur du court terme, il n'y a pas de problème pour que des investisseurs privés prennent le relais, mais ils ne le feront jamais sur le long terme. Et dès qu'on abandonne le long terme, on est en train de sacrifier notre industrie. Et ça, c'est très, très grave.
Justement, Marie-Claire Caïto, est-ce que vous avez l'impression, à travers le projet que l'État et la région, par exemple, sont en train de mettre en place pour reprendre telle ou telle entreprise, qu'il y a alors je dirais pas un plan, mais au moins un projet, une idée, un avenir pour ces entreprises, au-delà du côté pompier, au-delà du sauvetage?
Non, mais qu'il y ait des projets qui soient travaillés en plus conjointement entre l'État et les territoires, c'est extrêmement important, parce qu'y compris, on parle d'entreprise, mais souvent, enfin, c'est pas une entreprise, c'est un ensemble, c'est un tissu industriel de PME, de TI, sous-traitants, enfin, vous voyez, qui s'ancre bien dans les territoires, donc qu'il y ait ce travail conjoint qui puisse être fait, ça, c'est certain que c'est une bonne chose, mais moi, je reviens quand même, et je partage ce qui vient d'être dit, on a besoin quand même de cette stratégie qui est donnée sur du long terme, avec une véritable direction, une véritable vision. Et moi, je regrette cette vision. Ça fait quand même un certain temps que je ne la vois pas, y compris dans des domaines stratégiques comme ceux de l'énergie, qui est quand même un secteur extrêmement important et qu'on est en train de complètement massacrer. C'est une véritable catastrophe. Je pense qu'on va avoir des réveils très douloureux et pour l'industrie et pour les consommateurs quand ils vont voir leurs factures s'envoler. Je pense également que le fait qu'on n'ait pas un ministre du Travail, c'est pas être fétichiste ou être, mais c'est un signe, c'est un symbole. On a par contre un secrétaire d'État au numérique, on a un ministre des Finances. L'industrie n'est pas réductible ni aux finances, ni au numérique. Et je pense réellement, alors bon, moi, bien évidemment, la taxation du travail, je ne partage pas. D'ailleurs, je ne parle pas de taxe sur le travail, je parle de cotisation sociale, Et ça, c'est quand même le socle d'une société solidaire. Et d'ailleurs, si on regarde de très près la manière dont coûte, entre guillemets, un travailleur français, un travailleur allemand, on se rend compte qu'il n'y a pas de grande différence. Donc, comme on compare souvent, il faut regarder précisément les chiffres. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce dont souffre l'industrie, c'est que l'industrie est au service de la finance et non l'inverse. On a vraiment une vision financière et spéculative de l'économie qui s'est imposée depuis 25 ans, qui fait que la notion de création de valeur a été détournée au profit d'une approche strictement financière et de choix de gestion. Donc l'entreprise est devenue plus une manière de spéculer ou de produire du cash qu'une manière de produire de la création de valeur, comme c'est son rôle, et de produire des biens et des services pour la collectivité. Aujourd'hui, vous voyez des grands groupes, enfin, on pourrait les citer, comme Engie ou autres, qui empruntent pour payer des dividendes à leurs actionnaires. Enfin, je veux dire, on marche quand même sur la tête, Et comme ça a été dit en introduction, à leur vision de l'État actuel, ils s'apprêtent quand même, enfin, c'est ce qu'on entend, c'est dire, à céder pour 10 milliards de participation de l'État dans des entreprises. On entend parler d'Orange, de Safra, d'Engie, l'ancien Gaz de Française, Renault. Enfin, quand même, c'est pas ça que j'appelle reprendre la main sur l'industrie et avoir un État stratège.
de manière générale, l'industrie a souvent souffert en France d'une vision un peu du passé, d'un secteur qui était irrémédiablement voué au déclin. Est-ce que vous avez l'impression que cette vision assez culturelle est en train de changer en France, qu'il y a une prise de conscience ou que tout ça c'est juste de l'affichage, Thierry Veil?
La vision, je ne sais pas, la réalité est en train de changer. C'est-à-dire que quand on parle...
Vous voyez des signes positifs?
Effectivement, ça a mis du temps à se produire, mais les différentes mesures prises par l'ancien gouvernement de CICE, etc., ont permis, et de pacte pour la compétitivité, ont permis aux industriels de reconstituer leurs marges. Elles sont encore un peu limites par rapport à leurs concurrents étrangers, mais elles sont revenues à peu près à leur niveau d'avant la crise. Et donc, les marges, c'est une nécessité pour investir. Ça suffit pas, puisque personne... Pour investir, il faut non seulement que les gens aient l'argent pour investir, mais qu'ils aient le sentiment qu'il y a des perspectives et que leur investissement se permettra d'atteindre un marché viable et permettra de produire des richesses plus tard. Mais avant, même s'ils voyaient des opportunités de marché, ils n'avaient simplement pas les sous pour investir. Donc de ce côté-là, on observe une reconstitution des marges, on observe une reprise modeste mais nette de l'investissement et on observe un outil de production qui était souvent laissé un peu à l'abandon. C'est un des problèmes, vous l'avez cité, de l'entreprise GMS qui se remet à investir dans la modernisation de son outil de production. Parce qu'on ne peut pas lutter contre des pays où le coût du travail est moins important que le nôtre si on n'a pas un avantage dans la performance de notre outil de production, donc des produits plus innovants, des services qui accompagnent les produits et un outil de production beaucoup plus réactif, ce que permet de faire ce qu'on appelle l'industrie du futur.
Mais ces besoins d'investissement, ils sont assez conséquents, pour ne pas dire énormes. Est-ce qu'on a les moyens, Valérie Rabault, les moyens et la volonté aussi, d'investir massivement dans toutes les industries qui auraient besoin en France d'être modernisées?
Alors, quand on regarde un peu l'argent dont l'État dispose, il a un portefeuille de participation, puisqu'il a investi dans un certain nombre d'entreprises, mais il a quand même investi dans 1800 entreprises, ce qui est énorme, pour une centaine de milliards d'euros. Bon. Les stratégies qui sont associées à chacun de ces investissements, elles sont pas toujours très très claires. Alors j'entends bien qu'il y ait un peu de secret, ou bon, peu importe, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de direction très claire. Donc est-ce qu'on a les moyens de le faire? Je pense que oui, en tout cas dans une certaine mesure. C'est-à-dire que il y a des endroits où vous n'avez pas besoin d'avoir 80% du capital. Si vous êtes très largement majoritaire, alors je parle pas des grandes entreprises, mais je parle un peu en dessous. Si vous êtes très largement majoritaire, vous avez la capacité à donner une direction, en tout cas à soutenir des directions et à encourager l'investissement. Donc sur ce point-là, moi je souhaiterais deux choses. Je souhaiterais que l'État donne des instructions aux administrateurs qui le représentent dans les conseils d'administration. Ça, ce n'est pas fait suffisamment. Et en tout cas, le volet investissement n'est jamais le premier levier. Jamais, jamais, jamais. Et je souhaiterais que cette feuille de route-là, elle soit très claire. Le deuxième volet, qui alors là me tient énormément à cœur, c'est que quand l'État se désengage du capital d'un certain nombre d'entreprises, parfois il est amené à signer des pactes d'actionnaires avec soit les actionnaires qui deviennent majoritaires, soit d'autres actionnaires. Et il a tendance, on verra, enfin en tout cas dans certains cas peut-être, à se lier trop les mains. Il doit rester, quand on est l'État, on doit garder en main la capacité à faire en sorte que les grands axes stratégiques qu'on prend ou qu'on donne ou les grandes directions qu'on prend se traduisent dans les investissements sur le terrain. Et ça, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que la courroie de distribution de la mise en œuvre des informations est pas toujours, je pense, très efficace.
C'est un problème de rapport de force.
Bien sûr que c'est un problème de rapport de force, bien sûr. Bien sûr.
France Culture. Du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
Alors, industrie, État, stratège ou État sauveur, c'est la question dont nous débattons ce soir avec Valérie Rabault, Marie-Claire Caïto et Thierry Veil. Je voudrais vous faire écouter une archive qui n'est pas très vieille. Elle date du 13 octobre 2016. C'est Arnaud Montebourg qui était de retour à Florange.
Bonjour.
Je reviens à Florange, le cœur un peu serré, bien sûr, parce que je n'ai pas oublié tout ce que nous avons essayé de faire pour que les hauts fourneaux qui sont derrière moi continuent à fumer. Ils sont aujourd'hui arrêtés, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'avenir. Je suis venu rencontrer les organisations syndicales représentatives des salariés pour savoir où en sont les investissements, où en sont les emplois et comment nous pouvons continuer à soutenir cette installation stratégique pour la Lorraine et pour la France. La quasi-totalité des ministres de messieurs Chirac et Sarkozy avaient approuvé mon projet de nationalisation temporaire et partielle. Je me rappelle que nous avions les investisseurs, que nous avions les industriels qui étaient prêts à reprendre derrière la nationalisation. Je me rappelle que la majorité parlementaire me soutenait. Bref, deux personnes ont fait un choix différent. Il s'appelle le président de la République de l'époque et le Premier ministre. C'est regrettable, mais maintenant, il faut se tourner vers l'avenir.
Voilà, alors Arnaud Montebourg évoquant le souvenir amer de l'échec, enfin du refus plutôt du gouvernement socialiste de nationaliser Florange. On l'a dit la semaine dernière, le gouvernement Édouard Philippe a décidé de nationaliser les chantiers navals de STX. Alors pourquoi les chantiers navals de STX ont pu être nationalisés alors qu'à Florange on avait estimé que c'était trop long, trop complexe, trop cher? Comment est-ce qu'on établit les critères stratégiques d'une nationalisation, Valérie Rabault?
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un rapport de force. C'est-à-dire qu'on voit bien, là, dans l'exemple de STX, que le gouvernement joue un rapport de force avec l'État italien, ou en tout cas avec des investisseurs italiens. Je pense que précédemment, sans doute, que le rapport de force n'a pas. Le gouvernement n'avait pas souhaité jouer ce rapport de force-là avec Mittal. Ce qui, je pense, aurait été peut-être une solution à soutenir.
Vous la souteniez, vous, à l'époque?
Moi, je la soutenais à l'époque, oui. Oui, parce que, d'ailleurs, j'observe que, outre-Atlantique, les États-Unis avaient fait de même sur d'autres entreprises.
General Motors, notamment.
Mais ce qui est très intéressant dans le reportage, ce que vous venez de nous faire écouter, c'est que, dans le fond, il n'y a pas de suivi. Arnaud Montebourg a été ministre, alors c'est pas de l'industrie, mais
du redressement productif,
donc ce qui est proche. Et il vient demander des informations aux salariés pour savoir si le plan d'investissement est mis en œuvre ou pas, ce qui est quand même assez délirant quand on y pense. Et c'est à ça que sert un plan, c'est-à-dire de faire du suivi, d'être sûr que quand on prend un engagement de faire des investissements, ils sont tenus, ces engagements, qu'ils sont mis en œuvre. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire que je crains un peu que l'État lance des annonces, en tout cas c'était le cas avec Mittal, et que dans le fond il n'y ait pas de suivi. Mais au jour le jour de la mise en œuvre de ces investissements, c'est le seul moyen qui lui permettra de regagner en crédibilité et en efficacité.
Marie-Claire Caïto, sur cette question du suivi, est-ce que les salariés, typiquement dans les chantiers navals de STX, quelles garanties, mais généralement quelles garanties peuvent-ils avoir qu'il y aura un suivi au-delà d'une nationalisation en plus temporaire qui est annoncée?
Mais là, bon, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit précédemment, mais la question, justement, quand on parle de ce qui se passe dans les entreprises, et qu'Arnaud Montebourg revient aux nouvelles, en quelque sorte, qui mieux que les salariés savent ce qui se passe dans leur entreprise et dans leur travail? Donc la question, justement, avec le développement et la modernisation de notre appareil industriel, c'est également qu'il faut donner des droits nouveaux aux salariés pour qu'ils puissent intervenir dans les conseils d'administration et avoir leur mot à dire sur les choix stratégiques et, justement, avoir accès aux données de l'entreprise. Et je voulais revenir sur une question que vous avez posée précédemment sur l'idée de l'industrie souffre de son image. Et non, pendant des années et même des dizaines d'années, on nous a raconté l'histoire de la société post-industrielle, comme quoi on pourrait être une société de service, on ferait que la valeur ajoutée et on s'en sortirait très bien. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça c'est une erreur. Si on n'a pas une industrie forte sur le territoire, on va être un pays qui va être, mis de côté, quoi, qui sera vassalisé, qui sera dépendant des autres. Donc quand même, on parle effectivement des subventions qui sont versées à l'État, par l'État aux entreprises qui, de mon point de vue, ont peut-être réussi à reconstituer leur marge, mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment été, je parle principalement des grands groupes, à l'investissement productif ou à la recherche ou à l'emploi. Hein, je fais vraiment une différence avec les PME-ETI qui, elles, ont besoin de ce type de financement. Mais moi, je pense qu'il faut, quand il y a de l'argent public qui est dépensé, on demande des comptes, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit mis sous condition, justement, avec des critères sociaux, des critères environnementaux, et que ça ne soit pas des entreprises qui, derrière, vont faire des taux de rentabilité à deux chiffres. Parce que quand on dit après aussi, Oui, mais on va pas être compétitif par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il faut s'attaquer au soi-disant coût du travail. Moi, je pense que le travail, c'est une richesse, c'est pas un coût. La question, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des grands groupes qui sont transnationaux et qui cherchent les lieux de production les plus rentables. Donc, où les gens sont le moins bien payés, avec des conditions sociales parfois épouvantables, et où les conditions environnementales sont moins regardantes. Et après, on est obligé de rapatrier dans des cargos, dans des camions, ce qu'on produit à l'autre bout du monde, à l'endroit où on en a besoin, comme chez nous. Mais si on avait des taxations beaucoup plus importantes sur le transport, si on comptait toutes les externalités négatives qui étaient incorporées, là, ça deviendrait beaucoup moins intéressant d'aller produire au fin fond du monde, voyez. Donc l'idée, si on veut prendre en compte aujourd'hui les questions sociales et les questions environnementales, il faut produire au plus près des besoins et développer les circuits courts, l'économie circulaire. C'est ça, j'allais dire, le sens de l'histoire en supposant qu'il y en a un. Et aussi, ne pas oublier que l'entreprise, eh ben, c'est pas justement uniquement une machine à cracher du cash ou à... Mais c'est un collectif. Il y a ceux qui apportent les capitaux, il y a les machines, mais il y a aussi ceux qui font le travail. Et ceux qui font le travail, et bien, ils ont le droit à la parole. Donc on doit vraiment obtenir dans les entreprises des droits nouveaux pour que les salariés puissent avoir leur mot à dire. Et y compris d'ailleurs, imaginer des entreprises, des filières industrielles où les collectivités territoriales aussi peuvent dire leur mot, où tous ceux qui sont directement impactés par l'entreprise sur le territoire puissent prendre part aux décisions.
Thierry Veil.
Oui, alors là j'ai l'impression qu'on a l'air pas d'accord alors qu'on est d'accord avec Marie-Claire Tecaïto, puisque quand je disais il faut taxer les externalités négatives, c'est-à-dire les mauvais comportements sociaux de certaines entreprises, notamment celles qui sont soumises à des standards moins exigeants que chez nous, ou les comportements environnementaux également moins exigeants que chez nous, plutôt que de taxer le travail, on parle de la même chose. Il s'agit pas du tout de s'attaquer à la solidarité sociale et au fondement de l'assurance maladie, de l'assurance familiale, etc. Il s'agit de regarder comment c'est financé aujourd'hui. Les prestations qui sont acquises en France sont financées par des charges sociales qui pénalisent le coût du travail par rapport à l'étranger. Elles peuvent être financées par l'ensemble de la solidarité nationale, c'est-à-dire par d'autres impôts, et par exemple par une taxation des produits importés en Europe qui ne sont pas à nos standards environnementaux ou à nos standards sociaux de production.
Pour revenir sur les nationalisations, comment est-ce que vous expliquez que les chantiers navals de Saint-Nazaire ont été jugés bons, on va dire, pour la nationalisation, contrairement à Florange, aux aciéries de Florange?
Alors déjà, il faut quand même prendre en compte les coûts, c'est-à-dire que racheter les 66% qui sont aujourd'hui potentiellement vendus à Ficantieri de STX, ça coûte 80 millions. On a fait allusion à la nationalisation, appelons les choses par leur nom, de General Motors par Barack Obama. Mmh. Barack Obama a injecté à l'époque 50 milliards de dollars, c'est-à-dire 500 fois les sommes dont on parle,
oui,
pour STX,
c'est pas ça
dans
dont
General
on parlait
Motors.
Pour Mittal, quand même.
Il l'a fait, et Mittal, je connais pas les ordres de grandeur, mais c'est aussi nettement plus que 80 millions,
mais
je pense.
Mais c'est pas 50 milliards.
Ce qui est intéressant, peut-être, puisqu'on évoque ce soutien de General Motors, c'est que c'est pas un débat idéologique, c'est-à-dire que l'Amérique est en général beaucoup moins interventionniste dans les affaires industrielles que nous, beaucoup plus libérale. D'ailleurs, un certain nombre de républicains disaient, mais c'est de la distorsion de concurrence si General Motors
est mal
géré.
Parce que ça a sauvé General Motors, qui aujourd'hui...
Ford et Chrysler vont prendre des parts de marché, c'est très bien, à part qu'il faut savoir que d'une part, que 3 ans après, la question a été posée au PDG de Ford, qui lui n'avait pas été aidé par l'État et qui aurait pu dire « j'ai été victime d'une distorsion de concurrence puisqu'on a aidé mes concurrents auxquels j'aurais pu piquer des parts de marché pour grande prospérité ».
Est-ce que la question c'est de savoir si l'un ou l'autre pique des parts de marché ou de sauver une filière industrielle et des emplois?
Tout à fait.
L'État
doit quand même se mettre
un petit peu au-dessus de la mêlée.
C'est ce que j'allais dire.
C'est ce qu'a fait Barack Obama aux États-Unis.
Absolument, mais c'est ce qu'a reconnu le PDG de Ford, c'est-à-dire qu'alors qu'il aurait pu se plaindre qu'on ait aidé ses concurrents, il a dit finalement: je suis très soulagé que l'État ait aidé mes concurrents, parce que s'il ne l'avait pas fait, tout mon tissu de sous-traitants sur lequel je m'appuie
allait mourir.
allait mourir. Et aujourd'hui, moi, je ne serais plus capable de produire des automobiles à Detroit. Donc, en sauvant mes concurrents en encore plus mauvaise posture que moi, l'État américain m'a rendu service.
Est-ce que ça veut dire que que la nationalisation est en train de sortir de l'étiquette de dogme socialiste, voire communiste, pour devenir peut-être un outil très pragmatique, finalement?
Tout à fait, je pense qu'il faut
être pragmatique. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous?
Si dans une ville, il y a 5 boulangers et qu'un boulanger est moins compétitif que les autres parce qu'il fait du mauvais pain, bon, le fait qu'il disparaisse n'a pas beaucoup d'importance. Les 4 autres boulangers de la ville vont avoir plus de clientèle, embaucher les employés du boulanger qui disparaît. L'État s'occupera d'un minimum de filet de sécurité pour le boulanger qui perd son entreprise. Mais personne n'a intérêt à le soutenir pour l'économie. En revanche, soutenir General Motors peut avoir un sens. Soutenir la marine à voile à l'époque où se développait la marine à vapeur, ça aurait simplement empêché une transition et une innovation technologique de suivre son cours. En revanche, quand l'État a sauvé Alstom en faisant au passage 1,3 milliard de plus-value, ou quand l'État a participé à un plan de soutien de PSA qui allait très mal pour à la fois faire rentrer les Chinois, mettre lui-même de l'argent, permettre des investissements, il fait son boulot en rendant viables des entreprises qui le sont effectivement potentiellement avec un coup de pouce, avec une mobilisation de certains actionnaires et avec des financements. Et donc, d'une manière très pragmatique, il y a des cas où l'État et les collectivités locales sont fondées à intervenir et d'autres où ça ne sert à rien.
Marie-Claire Caïto, est-ce que vous pensez que la nationalisation des chantiers navals de STX pourrait créer des précédents et pourrait peut-être donner des idées, des envies du côté des travailleurs, des syndicats, de demander des nationalisations, de faire appel à l'État pour qu'il intervienne de la même manière dans d'autres entreprises?
Mais vous savez, enfin, j'allais dire, on a l'air de découvrir un petit peu cette chose-là, mais en Californie, il y a une dizaine d'années de tête, je ne me souviens plus précisément, mais ils avaient privatisé tout le secteur électrique. Ils se sont rendus compte qu'en faisant de la spéculation là-dessus, ça conduisait à des blackouts et ils ont nationalisé derrière. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas des choses qui sont complètement neuves. Alors, effectivement, oui, le fait de demander à l'État de prendre ses responsabilités, principalement sur des filières stratégiques ou pour sauvegarder les emplois, c'est une question qui n'est pas nouvelle et qui est extrêmement... qu'il faut remettre, j'allais dire, encore plus peut-être au bout du jour. Mais j'insiste, l'idée, c'est pas une fois qu'on a fait des profits, on ferme la boîte, on s'en va et on demande à l'État de venir être pompier, quoi. On a vraiment besoin d'une stratégie, d'une vision sur long terme, et puis j'allais dire que la finance soit au service de l'industrie, c'est-à-dire qu'il faut peser sur les banques, il faut qu'on sorte aussi de cette spirale dans laquelle on est enfermé, de vision d'économie trop financiarisée, qui ne peut plus, qui n'est pas capable, j'allais dire, de se mettre au service justement de l'appareil industriel.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de lier la politique industrielle également à la politique territoriale. Valérie Rabault, est-ce qu'on pourrait imaginer d'assumer davantage justement ce lien, de dire on pense la politique industrielle en fonction aussi des territoires, de dire on maintient peut-être parfois à tout prix, entre guillemets, un site, un bassin d'emploi, parce que derrière ce sont d'autres entreprises, des sous-traitants, un territoire entier qui risque d'être dévitalisé si l'entreprise ferme?
Alors déjà, c'est l'objectif des nouvelles régions qui ont à définir leur stratégie économique. Donc là-dessus, ça s'inscrit pleinement dans ce cadre-là. Mais encore une fois, soutenir une entreprise parce qu'un territoire en a besoin, c'est indispensable. Mais il faut aussi lui donner les moyens de créer son avenir. Si on la laisse dans la situation dans laquelle qu'elle est, qui a conduit aux difficultés que nous connaissons, on lui assure une mort certaine, à petit feu, mais on lui assure une mort certaine. Il est indispensable d'avoir un plan pour l'avenir. Un plan pour l'avenir, c'est de l'investissement. Encore une fois, s'il s'agit juste de faire un sauvetage one shot, on sait très bien que dans un an, deux ans, on se retrouvera dans la même situation. Un sauvetage doit s'inscrire dans une perspective d'avenir. Et c'est là où, effectivement, il faut réfléchir un peu, il faut réfléchir à la chaîne globale, il faut réfléchir à l'implantation territoriale, il faut regarder comment se structurent les marchés. Tout ça, c'est effectivement pas une réflexion qui se fait du jour au lendemain, qui est compliquée, mais qui est indispensable.
Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission. Merci infiniment à tous les trois, Thierry Veil, Marie-Claire Caïto et Valérie Rabault, d'avoir participé à cette discussion. Les références de vos ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres, c'est comme toujours sur franceculture.fr, à la page
reportage du Grain à Moudre. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Pierre Testard, Cédric Fuentes, Philippine Lebray, Juliette Montilly et Iseult Sicard. Réalisation Romain Masson, prise de son Alexandre Dang.